Bonjour et merci Thomas. Tu es historien et tu étais venu à la fête de lutte ouvrière après il y a quelques années pour présenter un texte inédit d'un insurgé de 1832 qui s'appelait Charles Jeanne, qui était le chef d'une barricade dans le quartier aujourd'hui de Beaubourg, quartier Saint-Merry. Une barricade lors d'une insurrection des 5 et 6 juin 1832. C'est une insurrection qui a inspiré Victor Hugo pour son roman Les Misérables. Et c'est une insurrection sur laquelle tu travailles depuis longtemps. Elle n'est pas très connue, elle est moins connue que d'autres soulèvements parisiens du 19e siècle. Et alors 1832, c'est également l'année de la première grande épidémie de choléra en France. Et donc tu as accepté d'évoquer pour Lutte ouvrière cette épidémie et cette insurrection. Alors, peut-être pour commencer, Thomas, quelques mots sur ce qu'a été cette épidémie, ce qu'on en sait aujourd'hui, 1832, le choléra arrive en France.
Bonjour Fabrice et merci de me permettre de réfléchir avec vous sur ces questions-là. Alors, le choléra, comme chacun sait, c'est une maladie épidémique très contagieuse causée par une bactérie, un bacille. C'est ce qu'on sait aujourd'hui au début du XXIe siècle. C'est ce qui est connu depuis la fin du XIXe siècle, mais il est important, me semble-t-il, de préciser qu'au moment où le choléra frappe l'Europe et la France, à la fin des années 1820, au début des années 1830, la maladie n'est pas connue. C'est un choléra dit asiatique qui trouve ses sources du côté des Bouches du Gange, dans l'Inde actuelle, et qui prend de court les populations concernées et les autorités qui ne savent pas comment se sortir de cette crise complètement inédite.
Et alors, est-ce qu'on sait combien de victimes elle a fait en France?
Oui, on a une idée sur la question. Des études ont été faites à partir des sources disponibles. Le choléra de 1832 à Paris, c'est grosso modo 20 000 morts, 20 000 aussi à Marseille à peu près. Au total, à peu près 100 000 morts en France.
D'accord.
100 000 morts, ce qui est très considérable. Quelques dizaines d'années plus tard, début des années 1850, une autre vague pandémique cause la mort en France d'à peu près 150 000 morts.
Donc, plusieurs fois l'épidémie de Covid-19 dans laquelle nous sommes aujourd'hui, quoi, hein.
Voilà, et puis à l'intérieur de la vague de 1832 en France, un premier assaut très tragique autour du mois d'avril 1832. Un répit et puis une reprise un petit peu moins tragique, mais quand même très mortelle, à l'été.
D'accord. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'on sait de la maladie, des mécanismes de transmission? Aujourd'hui, on sait que elle se propage par les eaux, par un bacille qui circule par les eaux, les vêtements ou la sueur. Mais en 1832, qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on essaie de se protéger? Si oui, comment?
Alors, on sait pour ainsi dire tout aujourd'hui, hein, sur le choléra et son mode de diffusion. Effectivement, ce sont les eaux, ce sont les aliments viciés. Au départ, le vecteur du choléra, ce sont les matières fécales. À l'époque, cette maladie laisse dans l'incertitude la plus complète. Certains prétendent qu'elle se diffuse par voie aérienne, d'autres par la nourriture, les liquides, mais aucune interprétation ne l'emporte. Les contemporains voient les symptômes du choléra et ces symptômes sont très impressionnants. C'est la soif, ce sont des crampes extrêmement douloureuses, c'est un ralentissement respiratoire, l'extinction de la voix, la baisse de la température. Et une mort très rapide. Dans certains cas, c'est simplement une dizaine d'heures entre les premiers symptômes et le décès.
D'accord. Alors, du point de vue des victimes, j'ai lu que le président du Conseil, Casimir Perier, en était mort, mais de façon plus générale, est-ce que la maladie, elle frappe plus les pauvres que les riches? Est-ce qu'on meurt plus dans les quartiers populaires que dans les quartiers bourgeois parisiens?
Alors là aussi, c'est très documenté. C'est documenté pour le début du 19e siècle en France, puisque c'est de ça qu'on parle, mais c'est documenté aussi pour le début du 21e siècle. Hein. Le choléra existe toujours, comme chacun le sait. Les différenciations sociales sont tout à fait nettes. Effectivement, l'exemple Casimir Perrier ne doit pas dissimuler le fait que le choléra touche plus particulièrement les populations les plus pauvres, les plus fragiles, qui s'alimentent ou boivent à des sources qui sont peu fiables, qui connaissent une très grande promiscuité favorisant la contagion. Il faut imaginer que le centre de Paris, dans les années 1830, ce sont des densités extraordinairement élevées et les conditions d'insalubrité dans lesquelles vivent les populations n'arrangent pas l'affaire. Donc, en mortalité différentielle, les plus pauvres payent un beaucoup plus lourd tribut que les plus riches.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire maintenant quelques mots de l'arrière-plan politique dans la France du début des années 30 ? Et puis, est-ce que le choléra a des conséquences politiques et sociales ? Est-ce qu'il y a, par exemple, quel est le rapport, s'il y en a un, entre le choléra et l'insurrection de 1832 ?
Alors, c'est vrai qu'il vaut la peine de souligner quel est l'arrière-plan politique, mais aussi économique et social, pour essayer de mieux comprendre la crise du choléra. Politiquement parlant, l'été 1830, c'est la fin de la Restauration, le départ de Charles X et la montée sur le trône du duc d'Orléans qui devient Louis-Philippe Ier, roi des Français.
Après la Révolution, après les Trois Glorieuses, quoi, c'est ça, hein, Trois Glorieuses.
Voilà, c'est les Trois Glorieuses de juillet 1830, un immense espoir populaire, sauf du côté des légitimistes partisans de la monarchie déchue, bien entendu. Mais cet élan populaire et cet enthousiasme trouvent très vite leur terme parce que la nouvelle monarchie, par bien des côtés, ressemble à la précédente. Les républicains, les patriotes, ceux qui étaient favorables à un mouvement marqué dans la politique, y compris sociale du régime, en sont pour leurs frais. Et donc, ces troubles politiques, sociaux, connaissent une sorte d'acmé, une première fois à la fin de l'année 1831, avec ce qu'on appelle la révolte des Canuts. Ces Canuts qui proclament qu'ils n'ont qu'une alternative, c'est vivre en travaillant ou mourir en combattant. Lyon est donc secoué par cette crise très profonde, Paris également. Et le choléra se situe dans ce contexte.
Tu peux nous dire un petit peu donc, les Canuts, qui ils sont, et puis en effet, quelle peur ils suscitent. J'ai lu qu'un publiciste en 1831 parlait des barbares qui menacent la société, je cite, qui ne sont point au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie, mais dans nos villes manufacturières. Donc il y a.
Voilà, dans les faubourgs de nos villes manufacturières. Ouais. C'est Saint-Marc Girardin qui écrit ça, effectivement, parce que lui et beaucoup d'autres sont très inquiets de ce qui se passe à Lyon, ont l'impression que se déroule un débordement de fureur populaire, alors que si on regarde à quoi ressemble effectivement la révolte des Canuts, eh bien on se trouve face à une revendication sociale très nette, portée par les ouvriers de la soie, et les petits chefs d'atelier de la soie qui se retrouvent dans une situation économique de plus en plus insupportable, qui ont besoin d'un tarif, qui ont besoin de davantage de dignité et qui essaient de répondre par la revendication à une crise forte qui est aussi une crise générale de l'économie française entre la fin des années 1820 et le début des années 1830.
Et alors donc, est-ce que le choléra, est-ce qu'il y a un rapport entre ce contexte et la pandémie ? Est-ce que on parle à l'époque de la question sociale, donc est-ce que le choléra, c'est aussi, ça en fait partie ?
Alors, il y a beaucoup de points de contact entre la crise sanitaire, la crise démographique d'un côté, et puis la crise politico-sociale de l'autre. Il s'agit de deux maladies, pensent un certain nombre de contemporains, mais qui les interprètent de manière très très diverse, en fonction en particulier de leur sensibilité politique. Circulent dans la population parisienne des analyses ou des rumeurs selon lesquelles le choléra, c'est la maladie des pauvres qui va se diffuser aux plus riches et que c'est les pauvres qui font du mal à la société en étant vecteurs de la maladie. On entend aussi dans les milieux catholiques l'idée que le choléra est une vengeance divine. On entend également du côté des plus pauvres que le choléra est instrumentalisé par les autorités en place pour les faire souffrir encore plus qu'ils ne souffrent. Donc il y a des points de convergence, des points de contact entre la crise politico-sociale et la crise sanitaire.
Et alors l'insurrection de juin 32 elle-même, tu peux nous en dire quelques mots est-ce qu'elle est peu connue en fait cette insurrection?
Oui.
Qu'est-ce qui se passe au juste?
Alors, elle se situe à un moment de répit, de relatif répit pour l'épidémie du choléra. Mais voilà, il faut se souvenir que les Parisiens ont l'épidémie en tête et dans leurs imaginaires. Au début du mois de juin 1832, on l'a dit, aucune parade médicale avérée, une grande inquiétude, une partie des plus riches des Parisiens qui choisissent de quitter la capitale. Et puis une instabilité politique majeure, accentuée aussi par le décès du président du Conseil, Casimir Péri. Bon, il se trouve que le point de déclenchement est un peu différent. C'est un général, le général Lamarque, qui meurt au tout début du mois de juin. Et ses funérailles, comme c'est souvent le cas dans la France du 1er 19e siècle, sont le point de départ d'une manifestation d'opposition. C'est le 5 juin 1832 qu'ont lieu les funérailles du général Lamarque, un cortège donc funèbre qui parcourt une partie de la rive droite de Paris, la ligne des boulevards en particulier, et du côté des greniers d'abondance, du côté de l'entrée du faubourg Saint-Antoine, en fin d'après-midi, les premières barricades sont érigées. J'entre pas dans les détails, la tension est extrêmement forte. Les insurgés sont souvent républicains, patriotes, certains d'entre eux sont légitimistes aussi, il y a certainement des bonapartistes, et puis il y a des habitants de la ville qui considèrent que ça ne peut pas durer comme ça et que sur le plan politique, économique et social, la situation est trop difficile. En 24 heures, après avoir été pas mal ébranlés par la puissance de l'insurrection, les forces de l'ordre reprennent le contrôle de la capitale et commencent une phase de répression et de normalisation qui n'est pas trop à l'honneur du régime, qui n'en tire pas gloire. Les républicains n'intègrent pas 1832 non plus dans leur grande histoire, ce qui fait que, comme tu le dis, cette insurrection-là est plutôt méconnue.
On sait un peu combien il y a eu de victimes, non ?
Il y a eu plusieurs centaines de victimes. Alors, c'est très difficile de comptabiliser à l'unité près, mais on pense que c'était, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait sacrément longtemps que j'ai travaillé là-dessus, 500 ou 600 victimes. Donc, on en retrouve trace dans les sources de l'époque. Par exemple, dans les registres de la morgue, qui sont une mine de renseignements, à la fois sur l'insurrection de 1832 et sur les effets du choléra.
Alors le choléra, donc tu as dit tout à l'heure qu'il revient ensuite en France plus tard. Quand et comment finit-on par s'en débarrasser ?
Les grandes pandémies du choléra, c'est d'abord, comme on l'a dit, fin des années 20, début des années 30, années 30 jusqu'à l'orée des années 40, puis la mi-siècle jusqu'au début des années 60. Et puis ensuite, il y a des retours du choléra qui sont moins mortifères, mieux contrôlés, en particulier médicalement. Et le choléra quitte l'espace européen et est aujourd'hui quelque chose de très lointain pour les Français, les Européens du début du XXIe siècle. Mais ça ne veut pas dire que le choléra a disparu. Il prospère sur la misère, il prospère sur les effets des catastrophes naturelles ou des guerres. Du choléra, il y en a eu en Haïti en 2010. Du choléra, il y en a eu très très récemment, même si ça n'a pas été tant souligné que ça au Yémen en 2017. Les populations qui sont fragilisées pour des tas de raisons et qui sont en situation d'instabilité à la fois sanitaire et économique restent aujourd'hui encore très sensibles à ces ravages épidémiques. Il y a en gros 100 000 morts par an du choléra à l'heure actuelle. Et selon l'OMS, je peux peut-être ajouter ça. Je peux peut-être ajouter ça parce que c'est pas sans importance. Le choléra reste aujourd'hui encore, et je cite l'OMS, un indicateur de l'absence d'équité et de l'insuffisance du développement social dans de très grandes et de très nombreuses parties du monde.
Bon, c'est dit de façon assez, polissée, mais enfin on a compris. Oui, c'est une maladie de la pauvreté, de la misère et de l'inégalité, quoi.
Voilà, on a affaire au lexique de l'OMS, mais derrière les mots, on comprend que les réalités sont tragiques.
Bien, ben merci Thomas pour cet entretien, et puis à bientôt.
Oui, merci Fabrice, à bientôt.